Macron s'est permis de mettre une gifle.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, d'effumaniser. 200 000 francs la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Un maton.
Des miradors.
Bonsoir.
Salut.
Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 FM et si tout se passe bien en duplex live sur Radio Canu 102.2 FM si je me souviens bien.
C'est ça.
C'est ça, à Lyon. Donc Radio Dio à Saint-Étienne et Radio Canu à Lyon. Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon, l'émission contre toutes les prisons. Voilà, en alternance avec l'émission La Petite Cuillère. Donc, on est ensemble jusqu'à 21h. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Donc, on va parler d'un communiqué de prisonniers qui dénonce ce qui se passe à la centrale de Saint-Maur à Châteauroux. On va parler des prisons de Valence et Fresnes, en l'espèce parce que apparemment, des voitures de surveillants auraient été attaquées. On voulait revenir vite fait sur cette histoire. On va revenir aussi assez vite fait sur ce qui s'est passé à Seyss, la prison de Toulouse, où il y a un prisonnier puis un deuxième qui sont morts au mitard. Et au moins pour la première mort, les co-détenus ont fait un gros mouvement de protestation pour dire qu'il avait été tué par les surveillants. Puis il y a eu un gros mouvement de protestation aussi dans certains quartiers qui ont été très très réprimés. Donc on va juste donner des nouvelles vite fait. Et on parlera aussi de ce qui s'est passé à la RIC.
Ces derniers jours,
du fait d'une intervention policière, il y a un jeune homme qui s'est retrouvé grièvement blessé suite à un accident de quad. Et si on a le temps, on aura encore quelques autres nouvelles, comme un rassemblement, une action des prisonniers de la prison de Fleury-Mérogis en solidarité avec Gaza. Voilà ce qui se passe avec les habitants de Gaza. Donc ça fait un programme chargé de petites choses.
On va essayer de le tenir.
En tout cas, pour l'heure, on va commencer avec une interview très locale au sujet. On va revenir, on en a déjà parlé dans l'émission Papillon, de la répression qui fait suite au mouvement contre la loi travail. Voilà, il y a des gens qui sont encore inquiétés par la police et la justice, donc on va en reparler un peu.
Voilà, donc on rappelle quand même un petit truc de contexte là. Le mouvement contre la loi travail, donc ça s'est passé au printemps 2016.
Nous rajeunit pas.
Voilà, il y a plus de 2 ans. Et du coup, pendant ce moment, un peu partout en France, il y a eu des grèves, des occupations de places, des manifestations et une forte répression policière. Également, du coup, à Saint-Étienne, on n'était pas en reste et il y a déjà eu des procès. C'est pas le premier là qui va avoir lieu, mais en gros, on avait pas mal parlé de l'histoire de l'occupation de la permanence de Gagnère à Saint-Étienne, avec en finale avec toutes les appels, etc., des condamnations pour 4 personnes, donc notamment des condamnations de prison avec sursis pour Jules, 4 mois, et pour Martin, qui a repris 8 mois avec sursis là récemment, avec plusieurs procès aussi. Le cas particulier de Martin, c'est que du coup, il a été condamné en première instance à Saint-Étienne à 8 mois de prison avec sursis, plus amende et indemnité, etc. Il a été jugé en appel, mais en appel, la cour a estimé une nouvelle audience pour laisser aux parties civiles une chance supplémentaire de produire les images qu'ils n'avaient pas à ce moment-là, donc les images de vidéos de surveillance des flics, etc. Donc reprocès en appel, donc ils ont refait le procès en appel, et il a été finalement acquitté, condamné à la même peine qu'en première instance, c'est-à-dire 8 mois de sursis. Voilà. Entre-temps, il y a Johan avec nous. Pardon, je t'ai oublié. Salut.
Pas de souci.
Ça va. Revenir là-dessus. Donc cette séquence répressive là, qui s'inscrit quand même sur le temps long, puisque ça fait plus de 2 ans après les faits. Déjà, elle continue avec des dernières nouvelles et un procès le 13 septembre. Alors voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler de tout ça, combien de personnes, comment ça se... Voilà, enfin, bref. Et puis peut-être, en fait, d'abord, nous parler justement, peut-être chronologiquement, là, du premier, parce que t'as déjà eu un procès pour 3 personnes pour refus d'ADN. Alors, un peu nous expliquer toute la procédure, en gros, voilà, qui t'a suivi, toi et d'autres camarades, comme on dit.
Ouais, bah, t'as bien récapitulé les faits. Enfin, surtout le contexte de l'époque, et puis ensuite comment la justice s'y est pris pour un peu à retardement, mais un peu patiemment et insidieusement revenir sur tout ça de manière répressive. Ça s'est inscrit dans le temps vachement long, parce que du coup c'est vrai que ça fait maintenant plus de 2 ans. Mmh. Enfin, ça fait 2 ans, et en fait un peu égrené sur toute cette période depuis lors. Mais en fait, un peu après la fin de ce mouvement, il y avait eu de nombreuses convocations. Alors, des auditions libres, entre guillemets, il n'y avait pas eu un retardement de garde à vue, perquisition, tout ça. Des auditions dites libres, avec interrogatoire. D'une heure à peu près de la part de la police de Saint-Té sur des faits qui sont reprochés à des personnes ayant participé à ces manifs. Et en fait, également dans ces interrogatoires, un truc assez classique, je crois, de leur part, c'est l'obligation de se soumettre au dépôt des empreintes, à la photo et à un prélèvement biologique, dans l'empreinte génétique, en fait. Donc, un truc assez classique. Tu l'as dit, pour ce refus de prélèvement ADN, en fait, le refuser, c'est un délit, en fait. C'est une grosse partie des personnes qui avaient été convoquées à ce moment-là dans ces auditions avaient refusé de donner leur ADN. Par conviction avant tout, puis voilà, c'est par refus du fichage, évidemment. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup à retardement, déjà l'année dernière il y avait eu un procès pour 3 d'entre nous. Je dis nous, c'est les personnes qui avaient été qui avaient été convoquées à ces auditions de l'automne 2016. Et ben paf, printemps 2017, un premier procès pour 3 d'entre nous pour nous juger sur ce refus d'ADN.
C'est assez marrant quand même la méthode, hein. C'est qu'avant de vous inculper pour quoi que ce soit, ils vous emmènent au tribunal une première fois.
C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient raté, ouais, dans leur... On avait été relaxés, heureusement. J'y suis plutôt heureuse, mais en même temps c'est assez logique, ils étaient mal pris. Il y avait vraiment, en termes de procédure, on peut dire heureusement quand même, tout n'est pas possible en termes répressifs, même si souvent on voit des peines complètement hallucinantes pour des faits qui semblent assez anodins, quoi. Mais là, quand même, sur un procès où il nous citait seulement à comparaître pour le refus d'ADN, bah, quand on met rien dans le dossier d'autre que ça, manifestement, il y a des juges qui se permettent pas quand même de condamner sur ce simple fait-là. Après, l'avocate avait quand même demandé la nullité de la procédure, globalement. Enfin, elle avait plaidé sur deux choses, sur la nullité de toute la procédure et ensuite sur, sur le fond, pour notre lax, voilà, sachant qu'il n'y avait rien dans le dossier. Et sur la nullité de la procédure, ils ne l'ont pas accepté, ils ont rejeté la requête de l'avocate, parce que pour eux, le simple fait qu'un policier vous demande votre ADN, vu qu'il représente l'autorité de l'État, quoi, de la loi...
Il y a un refus d'obtempérer, voilà.
Voilà, le simple refus d'obtempérer, c'est en soi condamnable, quoi. Il voulait pas dans ce procès-là, discréditer la possibilité pour la police qu'ils veulent laisser à pouvoir demander l'ADN. Sauf que, sur ce point précis, mais peut-être vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que la France fait figure d'exception en Europe. En tout cas, même par rapport aux lois européennes, la France est plus sévère et a été régulièrement pointée du doigt, voire condamnée factuellement par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ça reste une instance bien lointaine et tout, on ne sait pas trop comment ça marche et tout, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a quand même des points du droit français qui sont vraiment limite à ce niveau-là, quoi. Mais bon, ça, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a ce nouveau procès bientôt, là, le 13 septembre,
ouais.
Avec du coup un gros panier.
Alors, c'est les mêmes personnes qui ont été convoquées une première fois, à peu près.
À peu près, voilà, toute la série des personnes convoquées en septembre 2016. Toutes les personnes qui restaient, qui n'ont pas été déjà jugées dans les procès précédents, dont tu as parlé quand tu as introduit ce sujet-là. À peu près toutes les personnes qui restaient, à notre connaissance, se retrouvent dans ce procès-là du 13 septembre, donc 8 personnes au total, c'est énorme.
Avec en plus une des trois personnes qui avait déjà été, mais pour d'autres, c'est pour d'autres faits, mais qui avait déjà été dans le procès pour l'histoire de la permanence, là, qui se retrouve de nouveau à être rejugée pour d'autres trucs.
On sera particulièrement attentif à ce qui sera dit à son audience, parce que bon, il est probable que du coup, on a reçu une convocation pour le même jour et la même heure d'audience, mais il est quasi certain qu'ils vont, entre guillemets, découper l'audience en fonction des faits reprochés, des dates et des heures des faits. Donc soit ça sera en fonction des faits, soit ça sera personne par personne. En tous les cas, ça risque d'être assez long. Et en effet, on sera assez vigilant au sort qui sera fait à ce copain, parce que il a du coup déjà un casier judiciaire avec du sursis. On va voir à quelle sauce il va être mangé. Est-ce qu'ils vont prendre en considération... si, mettons, les faits qu'il lui reproche là aujourd'hui, c'est ultérieur aux faits pour lesquels il a déjà été condamné une première fois.
Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Voilà, c'est ça.
C'est pour quel genre de faits que vous êtes convoqué, que vous passez devant la justice? Ils ont pris quoi comme motif?
Aujourd'hui, on n'a pas encore accès au dossier d'accusation et il y a une avocate qui va prendre en charge tous les dossiers, les 8 personnes. Ça va lui faire pas mal de boulot d'ailleurs. Mais en gros, ce qu'on sait, ce qui est marqué sur les convocations, c'est essentiellement des faits de dégradation en réunion, après de biens publics ou non, mais voilà, des faits de dégradation.
Ok.
Alors du coup, je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus là-dessus. Bon, on rappelle que les dégradations, c'était quand même, c'était aussi dans un contexte que c'était pas des. Il y avait, je crois que histoire de chambre de commerce et d'industrie, le commissariat, la préfecture, donc quand même des instances assez symboliques, en tout cas à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Les convocations. Est-ce que tu pour le procès, par exemple, oui. Alors Elsa.
Oui, pour rappeler sur le contexte, c'était lors de manifestations. Il y avait des dizaines de gens qui avaient participé, apparemment jeté des eaux de peinture sur un commissariat de police municipale, sur la chambre de commerce et d'industrie, et d'autres petites choses comme ça, je pense. Et c'est ça qui fait l'objet maintenant de procès pour dégradation, si j'ai bien compris.
Ouais,
c'est ce genre d'événement-là.
C'est ce genre de choses avec voilà, une liste plus ou moins grande de faits reprochés.
En fonction des personnes.
En fonction des personnes, il y a des profils également assez divers. Il y a des personnes qui malheureusement, enfin, j'ai envie de dire malheureusement pour elles, parce que c'est, je pense que c'est dommageable pour elles, qui avaient, je pense qu'ils n'étaient pas en connaissance de cause et qui avaient, qui s'étaient soumis au prélèvement ADN.
On l'a perdu. Bon. Eh ben, allô?
Ça a coupé, comme on dit.
Oui, ça a coupé. Eh ben, je sais pas, on va peut-être essayer. Comment ils font à la vraie télé, à la vraie radio quand
soit ils changent complètement de sujet en faisant style de rien, ou alors ils mettent une petite musique.
Ah, mais j'ai été formé pour, quoi. Nous, on sait pas faire ça.
Moi, je dirais qu'on met une petite musique en attendant qu'ils rappellent.
En plus, comme un con, j'ai complètement oublié de préparer la musique. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut rappeler quand même brièvement, c'est que donc il y a un procès le 13 septembre, que on s'attend voilà, à avoir besoin d'argent. Du coup, toute initiative en ce sens est la bienvenue. On pourrait éventuellement peut-être consulter le site, le numéro zéro, pour voir un peu les initiatives qui auront lieu dans ce sens-là. Et puis peut-être le jour du 13 septembre, ça c'était une question que je voulais poser, un appel à rassemblement, mais on n'aura pas la réponse tout de suite.
On en reparlera. Peut-être tu peux raccrocher et peut-être
ouais,
tu peux rappeler.
C'est ça, c'est fou. Faut que je fasse 12 trucs en même temps.
Ah ouais, je peux pas t'aider en plus. Je peux faire une musique. Li la 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 li la
na. Tu peux.
Na 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 na.
Sinon, on n'a pas un truc. Sinon, est-ce qu'on peut pas commencer à enchaîner sur Saint, enfin, je sais pas, sur Saint-Maur, le temps que.
Si que tu veux. Mais sachant que c'est toi qui as le communiqué entre les mains, donc je peux toujours pas t'aider. C'est-à-dire que
pas
tu es orchestre, il est à la technique,
il
fait la musique,
là.
Il parle, il fait les interviews, donc il fait beaucoup de choses en même temps. Donc des fois, c'est pas facile.
J'en ai pas pour longtemps. Grâce à YouTube, je vais caler une musique dans. Merde, je fais de la pub. Je crois que c'est.
Vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne et sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon en duplex live. Vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon contre toutes les prisons. Une petite erreur technique est survenue. Ne quittez pas et restez à l'écoute et vous allez entendre très bientôt une petite musicalité et la suite de notre programme. Restez à l'écoute. L'émission Papillon contre toutes les prisons. La suite de notre programme, ce sera la suite de notre interview, si jamais notre interviewé nous rappelle. Ou alors, nous enchaînerons avec un communiqué des prisonniers de Saint-Maur et nous raconterons un peu ce qui se passe dans cette prison de Saint-Maur. Voilà. Et voilà, un petit peu de musique.
Me grip,
Et voilà, donc on a retrouvé notre invité téléphonique. Voilà, donc juste quand même, on voulait te laisser conclure et peut-être justement parler de bah, du procès à venir et puis éventuellement ce qui risque de se passer avant avec voilà le besoin de d'argent, etc., etc.
Ouais, parlons concret. tu lances bien le sujet. Alors c'est vrai que on peut parler. Il y aura une soirée de soutien à la caisse de solidarité le 29 juin. À l'amicale laïque du Cred Rock. Donc voilà, ramenez vos potes, votre famille, venez nombreux et voilà, il y a bien besoin. C'est des toutes ces procédures, c'est des choses qui coûtent très cher. Les avocats, les indemnités éventuelles à payer aux victimes entre guillemets, les amendes possibles. Voilà, puis c'est l'occasion d'en discuter ensemble. Ça devrait commencer vers 18h, peut-être une petite pétanque, apéro et en bouffant peut-être une discussion sur tout ça avant de pouvoir faire la fête un peu ensemble.
Ça, c'est un bon programme.
Voilà. N'hésitez pas, parlez-en, venez. Le 13 septembre, le jour du procès en lui-même, ça sera l'après-midi à 13h30 au tribunal à Saint-Thé. Il y aura probablement un rassemblement devant pour toutes les personnes qui veulent être présentes et marquer leur soutien, donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner le mot et surtout continuez à écouter Papillon.
Voilà, et ben en tout cas merci beaucoup à toi.
Merci
et puis,
à vous.
Voilà, bonne soirée et puis à très bientôt.
Et bon courage
pour l'émission. Au revoir.
Allez, ciao.
Salut.
Salut. Et voilà.
Et voilà, donc comme on disait, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon contre toutes les prisons sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne et en duplex live sur Radio Canus 102.2 à Lyon. Donc là, on a parlé un peu avec notre invité de la répression de manifestants contre la loi travail qui était il y a 2 ans. Et maintenant, on va changer de lieu, changer de style, mais bon, on parle toujours de toutes les misères que nous font police, justice et prison. On va parler d'un communiqué qui a été rendu public par des prisonniers de Saint-Maur. Donc Saint-Maur, c'est la maison centrale qui se situe à Châteauroux. Les maisons centrales, juste pour rappel, c'est des prisons pour prisonniers longue peine, voire très longue peine, donc pour prisonniers dits longue peine. Donc, c'est, je crois, en théorie, c'est à partir d'une peine de 7-8 ans. Bon, en gros, en général, c'est des gens qui ont pris des très grosses peines, voire perpétuité. Donc, c'est quand même pas la même ambiance qu'en maison d'arrêt ou qu'en centre de détention. Pour rappeler, j'ai trouvé ça dans leur journal local. C'est une prison où il y a 204 prisonniers, dont, par exemple, 35 prisonniers condamnés à perpétuité. Voilà, donc...
Ça se situe vers Châteauroux, qui est une ville pénitentiaire, on peut le dire.
Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans ce communiqué ou non, c'est dans une autre lettre, peut-être qu'on va vous lire après.
C'est un centre de détention et une centrale.
Oui, c'est un centre pénitentiaire où il y a centre de détention et maison d'arrêt, cette maison centrale, et un petit tribunal aussi, bien de cette bourgade locale qui juge les prisonniers.
La Berrichonne.
Les juge... qui leur en met bien plein la gueule en général, d'ailleurs. Voilà.
Alors du coup, on va lire, donc, c'est un communiqué qui a été envoyé au syndicat PRP, donc syndicat pour la protection et le respect des prisonnières et prisonniers, dont on a déjà largement parlé. Alors, à Saint-Maur, on ne vit pas, on survit. C'est en date du 28 mai 2018. Nous dénonçons le double jeu des surveillants... Nous, prisonniers de Saint-Maur, avons décidé de prendre le risque d'écrire un communiqué pour faire connaître la situation que nous vivons au quotidien et les traitements inhumains que nous subissons de la part des surveillants. Nous dénonçons le double jeu des surveillants qui vendent des téléphones puis viennent fouiller nos cellules. Ils vendent des iPhones 1000 euros, on a des preuves, puis retournent la cellule en les cherchant et te frappent au passage. La direction est au courant et ils nous font du chantage. Ils attendent que nous, les prisonniers, on balance les surveillants. Et si on le fait, les coupables seront au pire mutés, alors que nous, on prendra une peine en plus pour avoir eu un téléphone. Et on subira les représailles des autres surveillants parce que leur collègue se sera fait sermonner. Il y a encore moins de justice en prison qu'à l'extérieur. Nous dénonçons le recours à l'isolement qui est une forme de torture. Nous sommes placés en isolement pour des motifs ridicules, comme le simple fait d'être soupçonné d'avoir un téléphone. Une fois à l'isolement, ils fouillent de nouveau notre cellule de fond en comble. Quand tu pars à l'isolement, tu sais déjà qu'ils vont tout défoncer, et tu prends des coups gratuits à chaque fois que tu oses dénoncer. Nous dénonçons la violence quotidienne que les surveillants corrompus font régner pendant que la direction ferme les yeux, uniquement occupée par sa prime de fin d'année. Une fois on nous refuse un parloir, une fois on oublie, entre guillemets, de nous appeler pour la promenade ou au sport, on ne peut pas appeler sa famille de la cabine. Une fois on nous oblige à faire les visites chez le médecin porte ouverte, c'est-à-dire sous le regard du surveillant. Et sans arrêt, on nous provoque, on nous insulte, et si on craque, c'est de nouveau les coups, l'isolement et une peine supplémentaire. Nous parlons en connaissant les risques de représailles, d'isolement et de peines supplémentaires. Mais aujourd'hui, la situation est trop horrible et nous sommes obligés de parler pour faire savoir ce qui se passe dans les prisons françaises. Les cellules sont dans des états terribles. Certains n'ont pas de trucs basiques comme un interphone ou un lavabo et des prisonniers y vivent malgré tout pendant des mois et tout le monde, du surveillant à la direction, s'en fout. Une cellule sans interphone, ça veut dire que tu peux appeler personne s'il t'arrive quelque chose le soir ou la nuit. Nous n'avons pas à être maltraités ainsi. Nous avons été condamnés, mais nous ne sommes pas des animaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas traités et considérés comme des humains. Nous demandons des sanctions véritables contre les surveillants corrompus, la fin des fouilles à justifier et la fin de l'isolement.
Alors, pour rappeler, parce qu'ils disent que, par exemple, ils sont placés à l'isolement pour des raisons comme juste avoir un téléphone portable, l'isolement, c'est un régime qui est dénoncé par beaucoup et même par des organisations très officielles comme un régime de torture blanche. C'est des cellules et des quartiers dans lesquels les gens n'ont pas d'activité, ne sortent quasiment jamais de cellules, ne voient personne ou quasiment personne d'autre que des surveillants, sont donc à la merci des surveillants.
Et tout ça parfois pendant des mois, des années.
Ça peut durer des mois, voire des années. Et c'est des endroits qui peuvent rendre fous des gens qui pourtant avaient la tête bien sur les épaules à la base. Voilà, après les régimes sont plus ou moins durs selon ce qui est appliqué aux prisonniers en question, mais c'est au bon vouloir aussi des surveillants, de l'administration et tout. Sur Saint-Maur, voilà, pour dire, donc là c'est un communiqué, c'est vraiment bien et courageux de faire sortir des infos comme ça, et c'est important de les relayer, les envoyer de partout. Vous pouvez les trouver, j'imagine, sur le Facebook du PRP.
Mmh.
Voilà, vous pouvez le faire circuler aussi si vous voulez. Et mais voilà, pour resituer un peu, cette centrale de Saint-Maur, elle est quand même très mal réputée. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est des gens qui ont des très longues peines qui vont là-bas. Et peut-être, si j'ai bien compris, c'est un peu là où on envoie des gens pour les mater. À savoir que y a Rachid Boubala, dont on a pas mal parlé dans cette émission, qui est là-bas, il me semble, encore.
Il me semble qu'il est encore là-bas.
En isolement total. Mmh. Voilà, c'est un prisonnier qui fait chier clairement l'administration pénitentiaire à sa manière depuis longtemps. Et donc, il le lui rend bien. L'isolement total, c'est dur. Il y a Fabrice Borromée, dont on a aussi beaucoup parlé, qui avait d'ailleurs pris en otage, comme on dit, comme ils disent, un directeur ou un surveillant, je ne sais plus, ensemble avec Rachid Boubala, il y a des années.
À Condé-sur-Sarthe.
À Condé-sur-Sarthe, oui. Et donc Fabrice Borromée, qui lui aussi, depuis des années, réclame un transfert vers la Guadeloupe, parce qu'il est de là-bas et qu'il n'a aucune famille, aucun soutien ici, et qui devrait en théorie avoir le droit d'être près de chez lui. Et qui, pour cela, vu qu'il n'est pas entendu, prend certaines initiatives, on va dire, et la répression qui s'ensuit fait qu'il prend des années et des années de prison en plus et qu'il est très très mal traité. Et par exemple, là, je crois qu'il n'est plus à Saint-Maur, mais pour rappeler quand même que...
Il est à Moulins. Fabrice
Bourgogne.
Ah voilà, pardon.
Mais quand il était à Saint-Maur, il a été placé au quartier d'isolement avec un régime très 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 spécial et très très dur, genre grille de mitard en plus de la porte de sa cellule, pour que quand on ouvre sa porte, il a aucun contact avec les gens. On lui jetait sa gamelle par terre, par la grille. Il n'avait pas de parloir. On avait menti à l'aumônier en lui faisant croire qu'il allait l'agresser, lui envoyer de l'urine dessus, pour que l'aumônier, même lui, qui visite les prisonniers très seul en général, ne vienne pas le voir. etc., etc. Il y avait un psychologue qui refusait de le voir parce que c'était des conditions indignes et pas compatibles avec ses fonctions, etc.
Bah, et puis surtout, il s'était pris une grenade. Voilà.
Il était privé d'activité et donc il avait bloqué les douches. Deux fois, c'était vraiment sa seule prise, c'était de bloquer le retour de la douche, de sa douche. Hein. Ils n'étaient pas à plusieurs vu qu'il était en isolement. Et bah, la deuxième fois, il lui envoie une grenade assourdissante dans la douche. Bah, en fait, ils l'ont blessé à vie. Parce qu'une grenade assourdissante, bah, ça assourdit, quoi. Surtout dans une douche. Voilà, il y a ça. J'ai retrouvé qu'en 2014, l'Observatoire international des prisons avait relaté que le tribunal administratif avait fait annuler la surveillance nocturne pour un prisonnier. Donc ça, c'est une forme de torture blanche aussi. C'était un prisonnier qui était DPS, détenu particulièrement signalé, et on le réveillait plusieurs fois par nuit pour soi-disant surveiller qu'il était bien là. Mais en fait, on sait que c'est une manière de torturer les gens quand on les empêche de dormir. C'est que des exemples, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. J'en ai donné quelques-uns. Pour donner un peu le contexte de cette prison, il y en a plein d'autres où c'est horrible comme ça, mais bon, c'est pas pour rien quand les prisonniers sortent des communiqués comme
ça. Et prennent le risque, voilà, comme ils le disent au début, prennent le risque de le faire.
Voilà, donc à suivre, et puis bah, essayons au minimum de relayer leurs paroles, de faire entendre ces récits, ces témoignages à Saint-Maur ou ailleurs. Voilà. Oui, on en a une autre. Oh là là. Aujourd'hui, on est très carré, très professionnel. Dans tous ces exemples, il y en a une autre d'histoire qui a été relatée dans le dernier numéro de l'Envolée, le numéro 48, qui est sorti en février 2018. Et ben, on n'a qu'à vous lire tout simplement la lettre de Nagi, qui est une personne incarcérée à Saint-Martin-de-Ré, et qui lui racontait aussi ce qui lui était arrivé là-bas, qui est un exemple de plus dans la longue liste. Donc, ben, on va lui donner la parole en lisant une de ses dernières lettres. Donc c'était en janvier 2018. « Bonjour l'association L'Envolée. Je vous réécris, je vous expliquais un incident entre moi et un surveillant en cuisine que j'ai enfermé dans la chambre froide sur une durée de 5 secondes. Chose qu'en cuisine, on fait tous par amusement, que vous pourrez constater avec les témoignages oraux et écrits que je joins à cette lettre. C'est vrai que ça peut paraître surprenant quand on entend que j'ai enfermé un surveillant dans la chambre froide. » Mais je lui avais déjà fait, ainsi qu'à d'autres surveillants et détenus, sans compter que les autres détenus l'ont déjà fait ou subi eux-mêmes et de la part de ces surveillants même. L'été, on fait des batailles d'eau dans la cuisine, comme il y fait chaud, et les surveillants aussi se font arroser et ils nous arrosent aussi. Mais il y a un surveillant un peu plus raciste et lunatique que les autres, et du coup, selon son humeur, il fait déclasser les Arabes. Déclasser, c'est se faire virer du travail en prison. J'y ai travaillé presque 2 ans et il a essayé la première fois le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attaque de Nice au camion, en voulant me faire cuisiner des saucisses de Toulouse, alors qu'il savait qu'en tant qu'arabe et musulman, ça me dérangeait de les faire. Mais vu qu'en cuisine, on s'arrange entre nous pour faire à manger, j'ai donc échangé le repas à préparer avec un autre. Mais lorsque le surveillant a su ça, il s'est énervé et a insisté pour que je fasse les saucisses de Toulouse. En lui demandant le pourquoi, il a répondu « Regarde ce qu'ont fait les gens de Taras », en parlant de ce qui s'était passé à Nice le soir du 14 juillet 2016. Et moi de lui répondre que ni moi, ni les gens de ma communauté avons à voir avec cela. Et on s'est pris la tête. Du coup, j'ai été suspendue 10 jours sans salaire, le temps de l'enquête, et malgré les 3 témoignages en ma faveur, le surveillant n'a rien eu. J'ai été reclassée en cuisine et avertie, alors que je ne suis pas le fautif. J'ai déposé plainte, mais en vain, car le tribunal de Châteauroux et la centrale de Saint-Maur se soutiennent. J'ai donc retravaillé et j'ai vu 2 Arabes se faire déclasser, dont un qui essaie de l'attaquer avec son avocate Maître Boisel, mais idem en vain. Je vous avais écrit, ainsi qu'à l'Observatoire international des prisons, le défenseur des droits, à l'avocat, et personne n'a reçu mes copies. Le vague-mestre ou des surveillants ont tout jeté. Du coup, je vous mets le rapport de l'isolement, car ils m'ont mis à l'isolement directement après avoir été déclassée et je suis passée au prétoire où j'ai pris 15 jours de quartier disciplinaire. mais je n'ai plus le rapport, ni le rapport de déclassement. J'ai encore les témoignages que je vous mets de l'incident du 15 juillet 2016 et du 3 novembre 2017. J'espère que vous aurez tout cette fois, car je suis transférée à Saint-Martin-de-Ré. Salutations. Voilà, donc c'est encore un exemple et c'est vraiment bien de faire savoir dehors et de faire tourner ces histoires. Encore un exemple de comment ça se passe à Saint-Maur. Et comme je le disais, bah aussi dans d'autres prisons. Donc voilà, je ne sais pas si on fait une petite pause musicale ou si on enchaîne.
Bah, on peut enchaîner rapidement. Okay. Sur deux choses un peu similaires qui se sont passées à une semaine d'écart. La première, donc, c'était la nuit du 30 au 31 mai, donc il n'y a pas très longtemps, où sur le parking de la prison de Fresnes, au moins 3 véhicules de surveillants ont été incendiés par une dizaine d'hommes cagoulés sur le parking de la prison. Donc du coup, bon, visiblement, hein, voilà, il y a rien de plus à dire, si ce n'est que bon voilà, ça a été une opportunité bien évidemment pour le syndicat, notamment FO pénitentiaire, de réclamer de sécuriser la zone. Donc voilà, et en tout, et voilà, il y a 4 véhicules qui ont été incendiés ou endommagés. Voilà. Alors bon, il y a une enquête, ils savent pas trop pourquoi, ils pensent qu'il y a pas eu d'altercation qui sortait de l'ordinaire entre des surveillants et prisonniers, etc. Mais à la fin, le gars de FO pénitentiaire là dit quand même une phrase qui m'a fait un peu cogiter, parce que je vois pas bien ce qu'il entend par là. Mais il dit, on attend une réponse ferme parce que la tension va crescendo. Certains d'entre nous veulent assurer eux-mêmes leur sécurité.
Ah ouais. Alors, bah, milice, quoi.
Ouais, je l'entends.
S'il y en a
peu
qui
comme
se rêvent en milice, ça leur fait une bonne raison de faire les milices.
Voilà.
Bah, sur Fresnes, disons que c'est comme sur Saint-Maur et comme sur d'autres prisons, des histoires de ce qui se passe à Fresnes et d'embrouilles avec des surveillants. Bah, il y en a plein, en fait. Les surveillants, en plus, c'est eux qui. Comment dire ? C'est eux qui appliquent les directives, c'est eux qui ferment les portes, c'est eux, même quand ils sont pas, il y en a qui sont spécialement violents, il y en a qui sont spécialement racistes, il y en a qui sont spécialement crapuleux, mais en plus, même quand ils sont pas tout ça, ils appliquent déjà un ordre qui déjà pourrit la vie des prisonniers. Mmh. Donc
c'est un métier à risque, voilà, hein, faut ouais. Quand tu signes, faut savoir que tu peux te faire cramer ta voiture, donc peut-être que ça vaut pas le coup de signer finalement.
Ouais. En plus, faut savoir qu'il y avait eu quand même des récits comme quoi, bon, ça date un peu maintenant, mais quand les surveillants ont fait leur grève là pendant des semaines, entre autres à Fresnes, ils ont carrément pourri la vie des gens, quoi.
Mmh,
les gens, ils avaient pas toujours à manger, ils avaient
des
pas
cantines
toujours
qui sautent,
douches,
des parleurs qui sautent, des douches qui sautent. Enfin, voilà. Du coup, bah, en fait, est-ce que ça donnait des idées à d'autres? Mais en tout cas, le 4 juin. Dans la nuit du 4 au 5 juin, il y a 2 voitures qui appartiennent à des surveillants du centre pénitentiaire de Valence qui ont été incendiées sur le parking du personnel. Alors, en plus de ces 2 voitures incendiées là, il y a eu une photo. Alors bon, dans la presse, ils disent des photos de la vie privée d'un surveillant. Bon, on imagine que c'est sûrement des photos qu'il a dû poster sur je ne sais quel réseau social. Et une inscription qui a été taguée sur un mur qui disait « Premier avertissement ». Voilà, donc un petit rappel aussi sur Valence.
Valence, c'est pas mieux, voir si...
Voilà, donc c'est une prison toute neuve qui a ouverte en 2015, qui a déjà été, le théâtre de 2 mutineries, très, très peu de temps finalement après son ouverture, donc le 25 septembre et le 27 novembre 2016, mutinerie qu'on avait largement... relayé ici, notamment parce que voilà, il y a un des meneurs, enfin qui a été identifié comme meneur par administration, qui avait écrit pas mal, notamment à l'envolée, et qui avait été condamné suite à ça à 5 ans, 2 fois 5 ans, enfin en première instance et en appel à Grenoble en appel, 5 ans de ferme pour quelques milliers d'euros de dégradation, même pas le prix d'une voiture. Voilà, donc ça c'était au QMC, donc c'est un quartier Maison Centrale, c'est un quartier où on est encore pire que, enfin c'est de l'isolement permanent, enfin c'est un quartier qui est conçu, on en a aussi largement, enfin beaucoup parlé en tout cas, il y en a quelques-uns en France, c'est un quartier qui est conçu pour prisonniers soi-disant dangereux et qui est conçu pour l'isolement, enfin voilà, c'est du super isolement quoi. Donc voilà, un peu sur la séquence Maton qui pleure parce que Maton a eu sa petite voiture brûlée. On fait une petite pause.
Allez.
Toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 et Radio Canu 102.2. Là, on voulait revenir rapidement, même si en fait on sait pas grand chose, mais quand même ça nous semblait important d'en parler sur ce qui se passe un peu dans la vallée de Londen, notamment à la Ricamari. Donc la Ricamari, je rappelle pour nos auditeurs lyonnais, c'est une petite bourgade collée à Saint-Étienne. Et qu'il y avait déjà, enfin en tout cas dans cette vallée, il y avait déjà eu il y a quelques années un jeune mais de Firminy, donc de Firminy Vert, qui avait été retrouvé mort dans le commissariat du Chambon-Feugerolles, et s'en était suivi plusieurs jours d'émeutes dans le quartier de Firminy Vert et puis aussi dans un peu dans toute la vallée de Londen, donc Firminy, Chambon, la Ricamari. Là, ça c'est quelque chose qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Où il y a un jeune qui roulait en quad, qui avait pas de casque, qui était pas immatriculé, donc qui s'est fait poursuivre par les motards, par des policiers, et qui a percuté le pont de la gare de la Ricamari, qui a fait une chute de plus de 10 mètres sur la voie ferrée. Bon, son pronostic vital n'est pas engagé, mais d'après les dernières nouvelles que j'ai trouvées un peu dans la presse des médecins, c'est que il pourra probablement plus retrouver l'usage de ses jambes. Voilà. Donc en ce qui concerne, on va dire la procédure entre guillemets, quoi, il y a eu une réponse avec avec la famille qui a déposé plainte, en tout cas contre la police, puisque il y a déjà une divergence entre des témoins et la version des flics, c'est-à-dire que les témoins disent que les flics ont doublé le quad, qui se sont interposés en mode un peu par chocage là, et que du coup le jeune en quad il a dû dévier sa direction, sinon il percutait les flics, et il est passé de l'autre côté du pont.
Et sinon, en plus, on l'accusait d'avoir foncé dans des flics.
Oui,
en plus.
Bah, en plus, ouais.
Comme on accuse souvent des gens d'avoir foncé dans les flics.
Exactement. Donc il a dévié sa trajectoire, parce que voilà, exactement. Alors du coup aussi d'autres témoignages de proches du jeune là qui s'appelle Humit, qui disent qu'ils auraient vu les flics après déplacer un peu le quad, voilà. Ça c'est ce qui a été dit dans la presse. Et eux, alors les policiers disent que eux, ils ont poursuivi simplement le Humit, le jeune en quad, et qu'il a dévié, qu'il a perdu le contrôle de son quad et qu'il est passé, du coup il a percuté la rampe, la barrière du pont, et il est passé par-dessus. Voilà. Donc le parquet a décidé de saisir l'IGPN. Donc une enquête. Une enquête de l'inspection générale de la police nationale va avoir lieu. Voilà, donc on
peut être sûr que justice sera rendue.
Voilà,
comme à chaque fois.
Je pense. c'est ironique. En fait, ça fait. Du coup, en fait, suite à ça, dès vendredi soir, samedi soir, enfin, en tout cas, jusqu'à mardi, et je crois que là, ça c'est un peu retombé, mais il y a eu des incendies de voitures, avec à peu près au total depuis lundi soir, une quarantaine d'incendies de voitures en 4 nuits, des containers, etc., à la Récamari et aussi au Chambon. Donc, et puis il y a aussi, du coup, forcément, une occupation nocturne policière de nuit qui se passe sur les rues, sur les principales places de la Récamari, et puis autour du quartier du Moncel, qui est l'un des quartiers de la Récamari. Voilà, donc la famille elle réclame justice, et elle appelle en plus, alors j'ai pas l'heure exacte, j'ai pas réussi à le trouver, mais si on la trouve, peut-être qu'elle sera mise, peut-être sur le numéro 0 en tout cas, voilà. Mais dimanche, sur le pont de la gare, je crois que la marche doit aller du pont de la gare jusqu'au Chambon-Feugerolles, une marche de soutien à Humit. Voilà, et puis si on a plus d'infos, on en dira mieux dans la prochaine émission.
Ok. Et dans les autres histoires gays, on va donner des nouvelles de Seis.
Ah oui, qui est un peu dans la même thématique. On rappelle, hein, suite au, on en a, comme Elsa l'a dit en tout début d'émission, donc il y a eu deux morts au Mitard, avec du coup des mouvements de blocage de promenade, plus de 200 prisonniers à la prison de Seis, et en même temps dans le quartier de la Rennerie, des révoltes en soutien à un des deux morts, enfin aux deux morts au Mitard, on va dire, dont un qui était du quartier, et on avait eu une copine de Toulouse qui nous avait raconté un peu les audiences.
La répression suite à ces révoltes dans les quartiers.
Exactement. Et là, visiblement, vraisemblablement, il y a eu les rendus, là, les délibérés, qui sont tombés aujourd'hui. Donc, on va les dire.
Voilà. Donc, les gens qui ont été accusés d'avoir participé à ces révoltes dans les quartiers. Donc, les verdicts qu'il y a eu, c'est par exemple trois jeunes suspectés de jet de projectiles ont été condamnés parce qu'on les avait vus rentrer dans un immeuble en courant. Voilà, donc c'est une charge assez lourde, n'est-ce pas, rentrer dans un immeuble en courant. Ils ont été condamnés à 18 mois ferme avec maintien en détention. Un a été condamné à 12 mois ferme mais sans mandat de dépôt. Une personne qui n'avait pas pu accepter la comparution immédiate parce qu'elle était sous tutelle a été maintenue en détention pendant un mois. Accusé d'avoir filmé les émeutes. Voilà, et donc finalement, il a pris 6 mois, dont 3 fermes, avec maintien en détention, plus 2 ans d'interdiction d'aller dans les quartiers du Grand Mirail. Voilà, donc pour avoir filmé les émeutes. Hein. 2 personnes ont été condamnées pour dégradation et obstruction de la voie publique à une amende de 300 euros chacune. Et la personne, donc l'envoyé spécial au tribunal qui nous renvoie ses verdicts, nous dit « On remarque juste que les seules personnes qui évitent des peines sont blanches ». Voilà, donc ça, c'est les nouvelles des derniers procès suite aux révoltes. Et rappelons bien que c'est suite au fait qu'il y a une personne qui est morte au quartier disciplinaire de la prison de Seyss à Toulouse et que les co-détenus sont mobilisés pour dire qu'il avait été tué par les surveillants. Donc, cette affaire reste à suivre.
Mmh. Et ouais. Du coup, pendant que j'y suis, pour revenir un peu, je reviens un peu à ce qu'on disait avant sur Larry Camari, il semblerait qu'il y a des gens qui se sont fait arrêter dans les nuits là, pendant les nuits, qui auraient été jugés. Donc voilà, si certains d'entre vous ont des infos là-dessus, bah qu'ils n'hésitent pas à nous les faire tourner. On rappellera l'adresse, le contact en fin d'émission.
Oui, c'est toujours important aussi d'aller suivre ce qui se dit dans les procès suite à ce genre d'événement, parce que en fait, c'est là aussi qu'on apprend ce qui se passe et qu'ils peuvent se jouer des solidarités.
Mmh.
Voilà.
Tout à fait.
On voulait finir, mais je sais pas si... Ouais, on a le temps de lire ce communiqué de Fleury.
Oui,
on a le temps. On va le lire vite fait alors, parce que... Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne.
Non, mais il semblerait qu'en fait, Internet, le flux Internet de Duo marche pas, et à Lyon, ils ne peuvent pas nous entendre.
Ah,
tant pis.
Peut pas grand chose.
Non.
Donc déjà qu'on fait une émission pas très professionnelle.
Donc, si en plus on doit se mêler des connexions internet, alors laisse tomber.
On sera complètement incapable de faire quoi que ce soit, désolé.
Ouais.
Donc on voulait vous lire ce communiqué qui est un communiqué de prisonniers de Fleury-Mérogis. Donc c'est une énorme prison à Paris. En fait, des détenus ont bloqué la cour de promenade en signe de solidarité avec Gaza. Donc ça s'est passé dimanche 20 mai 2018 et des détenus, des prisonniers ont décidé de bloquer la cour promenade en soutien au peuple palestinien suite à ce qui se passait dans la bande de Gaza. Ils avaient souhaité réintégrer leurs cellules, donc réintégrer leurs bâtiments et leurs cellules dès que les ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité, allaient intervenir. Mais c'est le personnel lui-même de l'établissement équipé de tenues d'intervention qui aura procédé à cette réintégration des prisonniers. Voilà en tout cas ce qui a été publié par ces prisonniers. Donc sachez que les prisonniers n'ont pas le droit de s'exprimer ni de publier des choses. Donc s'ils les ont publiées, c'est par les moyens qu'ils peuvent. Voilà ce qu'ils ont dit. « Nous, détenus du bâtiment D1 de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, avons décidé de bloquer la cour de promenade en soutien au peuple palestinien qui manifeste depuis plusieurs jours pour tenter de braver le blocus imposé par Israël et contre l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem à l'occasion des 70 ans de la Nakba et pour faire valoir le droit au retour des Palestiniens. Même si nous sommes privés de liberté, nous tenons à manifester contre les massacres dans la bande de Gaza de la part du gouvernement israélien en solidarité avec les 61 Palestiniens tués par les forces militaires coloniales, dont 8 enfants et un bébé, et les 2400 blessés. Tout comme les Palestiniens qui font de la Palestine un symbole de dignité et de lutte de longue haleine, notre manifestation est une manifestation pacifique, sans violence et sans haine. Nous bloquerons la promenade dans le calme jusqu'à l'arrivée des ERIS. Parce que Fleury est la plus grande prison d'Europe, nous voulons exprimer notre solidarité avec Gaza, qui est la plus grande prison du monde. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Voilà, c'est quand même assez classe, je trouve. Surtout qu'il faut savoir que vraiment bloquer une courte promenade en prison, c'est prendre des risques, vraiment des gros risques pour soi, pour sa peine, etc. Et que c'est chouette que des gens aient participé de l'intérieur de leur prison à ces manifestations qui avaient lieu dans diverses villes.
Oui, partout, voilà. En France.
Donc on voulait saluer ça et le faire savoir.
Voilà, on va passer à l'agenda et puis on va l'émission donc, touche à sa fin.
L'émission touche à sa fin et on va vous parler de deux événements qui vont avoir lieu à Saint-Étienne. Donc moi je vous présente le premier, c'est ça ? Comme tu veux. Ce samedi 9, donc le 9 juin 2018, à La Gueule Noire, c'est l'espace autogéré La Gueule Noire qui se trouve au 16 rue du Mont, quartier Bellevue à Saint-Étienne. Il y aura une fin de journée et soirée en soutien au collectif des cours et des logis. C'est un collectif en fait qui s'occupe de soutien administratif et juridique pour des personnes exilées. Voilà, donc ce sera à partir de 16h. Il y aura une conférence à partir de 17h pardon, sur la gestion des frontières. Ensuite, il y aura un apéro débat. Et ensuite, il y aura des artistes, des musiciens. Donc alors là, je sais pas ce que c'est, mais c'est Blada et Qu'est-ce qu'aille dit la madame. Voilà, ce sera à prix libre et il y aura un repas. Voilà, donc il faut venir, je pense que c'est cool. Donc c'est, je rappelle, à la Gueule Noire, samedi 9 juin, et le tout, c'est à partir de 16-17h. 16 rue du Mont à Saint-Étienne. Et un peu moins festif, mais quand même important, le 14 juin.
Ouais, alors le 14 juin, il y a un procès et du coup un appel à rassemblement à 12h30 devant le tribunal de Saint-Étienne. Alors, pour soutenir les personnes en procès, mais aussi pour exiger un logement pour tous et toutes. Alors en gros, le 31 octobre dernier, je vous lis l'appel. 31 octobre dernier à Saint-Étienne, il fait froid, il pleut et comme tous les hivers, sont toujours à la rue plus d'une centaine de personnes dont plusieurs familles roumaines parfois installées à Saint-Étienne depuis de nombreuses années. Des enfants de 2 à 15 ans, des personnes malades, des femmes enceintes, des familles subissent chaque jour le harcèlement des forces de l'ordre qui les chassent de chaque lieu où elles s'installent. Ne pouvant se poser nulle part, après plusieurs courriers, des dizaines d'appels au 115, de multiples démarches auprès des autorités et toujours aucune solution de logement, les familles souhaitent se mettre à l'abri. De nombreux bâtiments sont vides à Saint-Étienne et certains voués à la démolition, comme cette maison du centre-ville repérée pour une ouverture. Dans la nuit du 31 octobre, 5 personnes sont interpellées par la police devant cet immeuble. Après 17 heures de garde à vue, 3 personnes roumaines ressortiront avec des obligations de quitter le territoire et une convocation pour un procès pour détérioration de portes. Les 2 soutiens devront comparaître pour ce même motif d'inculpation et également refus de prélèvement ADN et refus de relevé signalétique. En cas de condamnation, les personnes roumaines pourraient se voir interdire l'entrée sur le territoire français. Nous invitons toutes ceux et celles qui souhaitent soutenir les personnes mal logées face à la justice à se rassembler le 14 juin à 12h30 devant le tribunal de Saint-Étienne. Un toit pour tous et toutes, liberté de circulation et d'installation. Voilà, on va rappeler nos contacts, puis on va se quitter. Alors, émission papillon, tout attaché, @riseup.net, R-I-S-E-U-P. Net et émission papillon la gueule noire 16 rue du Mont 42100 Saint-Étienne. Voilà, et puis on se retrouve dans 2 semaines et ce sera la dernière émission de l'année avant la pause d'été.
Et puis si vous voulez nous retrouver aussi sur internet, vous pouvez nous retrouver sur le site lenumero0.l'autre.net qui est un site d'information locale. Et voilà, vous pouvez retrouver certaines de nos émissions, certaines des infos qu'on vous donne aussi. Voilà, et d'autres infos plutôt intéressantes. Bonne soirée.
Et bien, portez-vous bien, portez-vous bien, pardon, force et courage à tous ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Voilà. Allez, ciao. Salut.
Spécial Tolar, dédicace à Barbas, pour tous les Tolars cousins, du nord au sud, du sud au nord, est-ouest, tous les putains de tôles mon frère, aïe, aïe. Wesh wesh les Tolars, comment ça va, pour 1 million de dollars, 10 fois bim on te savate, l'argent c'est comme la dole, ça rentre sa sœur. On vise le pactole, Dieu merci si on s'en sort. Tout le monde peut mettre l'huile. Bois d'art, santé, Fresne, Fleury, tous les mecs au heads. Marseille, Paris, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Toulouse, Toulon. Tout le monde.
Wesh, mes tollards. Comment ça va? Moi, alhamdoulillah, c'est la Starac, on est là. Beaucoup voudraient qu'on se taise, car nos flots sont des M16. Nos V4
qui sont bien réels, comme un putain de film à la Martin Scorsese. Envoie le yo-yo et une boîte de ton, y'a le maton, ouais remets l'œil ton, baisse le ton, quand je parle sinon, je pourrais me prendre une deuxième condamnation. Envoie le tabac, envoie les roulés, envoie les mansards, envoie le pangué, je mets le drapeau, ouais je mets la lumière, l'infirmière veut m'examiner. Envoie la cassette, j'ai le signe dans la cachette, au bout roulé, ouais dans la manchette. Possible, grillage, gamelle, parloir blanc, détenu, cale-toi dans mon aile. Charbonneur, proxo, dealer, petite frappe, crapule, ouais tous les hustlers. Gangster, braqueur, bandit, patron, big boss, tous les malfaiteurs.
Wesh, wesh les dollars, comment ça va? Pour un million de dollars, 10 fois, bim, on te savate. L'argent c'est comme la dalle, ça rentre, ça sort. On vise le pactole, Dieu merci si on s'en sort. Tout le monde va mettre l'huile, wesh. Bois d'art, santé, wesh. Freine, fleurie, wesh. Tous les mecs au heads, wesh. Marseille, wesh.
Viens d'entrer au Hebs, plaque tournante. Arrive en yo-yo, plaque chauffante. Chinois contre arabe, plaque contre plan. Plaque de songer, plaque contre banque. Monte au charbon, comme on dit dans le jargon. T'as pris 20 piges, t'as l'air pas con. Tenue orange, concert, mais t'as l'impression d'être au Bataclan. Tourne en rond, tourne pas rond. Numéro 10, que des attaquants. J'passe au prétoire, j'tire pas à blanc. Michael Jackson, parleur blanc. Promenade, lumière, maton. Tous les jours le même délire. Ciné, frisson, barreau, baisse-bas. À la douche avec le sourire. Wesh, wesh les dollars, comment ça va? Pour un million de dollars, 10 fois